Il est 14h à Paris, 9h à Port-au-Prince, 1h de plus à Rio. RFI Midi, la dernière demi-heure sur le continent américain. Dans quelques minutes, nous serons avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, pour faire un point sur l'actualité haïtienne. Il y aura bien un procès pour Jair Bolsonaro, décision de la Cour suprême. L'ancien président brésilien sera jugé pour tentative de coup d'État, on va y revenir. En Argentine, les inondations meurtrières de Bahia Blanca seraient bien liées au réchauffement climatique, d'après un réseau de scientifiques international. Alors certains Argentins sont de plus en plus critiques vis-à-vis des positions de leur président Javier Milei.
Il nie le changement climatique et il croit que le marché peut régler tous les problèmes spontanément. Ça n'a jamais fonctionné nulle part, donc je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait ici.
Un reportage à suivre. Et puis l'actualité des Outre-mer. Bonjour Emma Jaconelli, vous allez parler des sargasses.
Et comment revaloriser ces algues qui s'échouent et polluent les plages antillaises.
On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, le journal international. Et on commence, Karine Belicha, par la clôture du sommet des alliés de l'Ukraine.
Près de 30 pays se sont réunis autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée, après, avec l'objectif de finaliser les garanties de sécurité à apporter aux Ukrainiens en cas d'accord de paix avec Moscou. Le duo franco-britannique était une nouvelle fois à la manœuvre pour tenter de peser face au spectaculaire rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Les Européens en appellent aussi à la Chine. En visite à Pékin, le chef de la diplomatie française a souligné le rôle que pouvaient jouer les dirigeants chinois. Jean-Noël Barrot.
Le nombre et l'intensité des conflits, tout comme l'affaiblissement de nos institutions multilatérales, menacent la stabilité du monde. Nous en sommes convenus, nos deux pays, membres permanents du Conseil de sécurité, ont la responsabilité toute particulière de trouver ensemble des réponses à apporter à la communauté internationale en dépassant les clivages qui opposeraient les pays occidentaux aux autres ou les pays développés aux pays en développement. La France et la Chine doivent en premier lieu se coordonner pour favoriser une paix juste et durable en Ukraine. Pour mettre un terme à cette guerre d'agression russe, la participation de l'Ukraine et de l'Europe au pourparlers de paix est indispensable. La Chine a aussi un rôle à jouer pour convaincre la Russie de venir s'asseoir à la table des négociations avec des propositions sérieuses et de bonne foi.
Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, des propos recueillis par Cléa Broadhurst.
Les partenaires commerciaux des États-Unis cherchent la parade après le nouveau coup de force de Donald Trump.
Nouvelle escalade de la guerre commerciale menée par le président américain. L'onde de choc est mondiale après la décision prise par le président américain d'imposer 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles, à commencer par l'Union européenne. Oriane Verdier.
Le ministre français de l'économie a appelé à une riposte européenne. Berlin souhaite qu'elle soit ferme alors que l'Italie invite à ne pas céder à des réactions instinctives. Londres affirme de son côté négocier avec Washington. Toutes les options sont sur la table, prévient le Japon. De l'autre côté du globe, sur le continent américain, le Brésil dit ne pas pouvoir rester sans rien faire. Au Canada, le Premier ministre dénonce une attaque directe. Donald Trump a menacé l'Union européenne et le Canada de droits de douane encore alourdis s'ils coordonnaient leur riposte. La mesure devrait entrer en vigueur dès le 2 avril. Le but, selon Donald Trump, est de faire payer les pays qui font des affaires aux États-Unis et prennent la richesse du pays. Au-delà des tensions diplomatiques, c'est également un bouleversement pour l'industrie automobile. Un bouleversement qui touchera aussi l'industrie nationale américaine, prévient la directrice générale de l'Association des constructeurs européens. Les constructeurs américains possèdent en effet des usines au Mexique et au Canada. Ces derniers ont d'ailleurs déclaré qu'il était crucial que cela n'augmente pas les prix pour les consommateurs.
En Algérie, l'avocat de Boualem Sansal en appelle à l'humanité du président algérien. L'écrivain franco-algérien, 80 ans, a été condamné à 5 ans de prison ferme ce matin. Boualem Sansal était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire et à la sûreté de l'État. La question est de savoir maintenant si Abdelmadjid Tebboune usera ou non de son droit de grâce en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger. Pas question pour Benjamin Netanyahou de reculer en Israël, malgré les rassemblements quasi quotidiens des manifestants qui dénonce la dérive autoritaire de l'exécutif. Le Parlement a adopté ce matin une loi affaiblissant le pouvoir des juges. Recours immédiat de l'opposition devant la Cour suprême. Le bras de fer continue.
En France, c'est la fin du procès de Gérard Depardieu.
Il aura duré 4 jours au lieu de 2, fait rarissime dans ce type d'affaires. Marie Casadebé, vous suivez pour nous ce procès. Bonjour Marie.
Bonjour.
L'acteur de 76 ans comparaît depuis lundi pour agression sexuelle contre 2 femmes sur un tournage en 2021. Après des témoignages accablants, la parole est en ce moment à l'accusation après les parties civiles.
Oui, cette affaire, c'est un MeToo cinéma à la française, commence Maître Durieux-Diebold, l'avocate d'une des plaignantes, caractérisée elle aussi par la silenciation ou bien la réduction au silence. Pour elle, cette affaire, c'est en fait des décennies d'agressions sexuelles de la part de Gérard Depardieu. Tout le monde savait, personne n'a rien dit. On a laissé ces femmes à disposition de l'acteur sans les protéger, dénonce-t-elle. C'est la grande famille du cinéma, ironise la présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, partie civile également. Surtout, ne pas faire de vagues, on ne va pas arrêter un tournage pour une petite costumière. Alors non, il n'y a pas de complot contre Gérard Depardieu, lance les avocates, l'une après l'autre, à la défense de l'acteur, juste des femmes qui ont pris des risques. Toutes les deux dénoncent d'ailleurs de la part de Maître Assous une défense agressive, misogyne, une apologie du sexisme. Elles demandent, toutes les deux, des indemnités pour le préjudice subi par leur cliente au cours de ce procès. Le procureur ne rate pas non plus l'avocat de Gérard Depardieu qui, selon ses mots, a réussi à donner à l'audience des dimensions de cour d'assises avec, résume-t-il, une stratégie de saturation d'un seul point de vue extrême. Sur le fond, il ne fait aucun doute pour le procureur que c'est un dossier d'agression sexuelle et rien d'étonnant qu'autant de membres de l'équipe du tournage n'aient rien vu. Il a toujours la parole au moment où je vous parle. Ses réquisitions sont donc attendues d'une minute à l'autre.
Marie Casadebé en direct et à suivre après les réquisitions, la plaidoirie de la défense de Gérard Depardieu. Autre réquisition aujourd'hui en France, celle contre Nicolas Sarkozy et ses 11 coprévenus. Selon l'accusation, l'ancien président français est le véritable commanditaire d'un pacte de corruption inouï et indécent. Un accord conclu avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi pour qu'il finance sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy risque notamment 10 ans de prison et 375 000 euros d'amende.
Il est 22h07 à Séoul, la Corée du Sud, qui doit faire face aux incendies les plus destructeurs et les plus meurtriers de son histoire.
Un bilan très provisoire fait état de 27 morts, des dizaines de milliers d'évacués d'urgence et plus de 35 000 hectares de forêts ravagées. En cause, la sécheresse due au réchauffement climatique et les autorités ont du mal à s'adapter à cette nouvelle donne. À Séoul, la correspondance de Celio Fioretti.
Depuis ce week-end, les hélicoptères de pompiers ne cessent de survoler les incendies dans l'espoir de ralentir la progression du feu. Une stratégie qui repose principalement sur l'utilisation de ces hélicoptères, mais qui est questionnée sur son efficacité. Pour Jang Mina, spécialiste de la gestion des feux de forêt, il faut surtout plus de bras.
La Corée a un relief très montagneux. Il y a des zones où l'accès est trop difficile à pied en raison des pentes abruptes. C'est pourquoi nous utilisons beaucoup les hélicoptères. Mais nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur ces appareils. Une équipe spécialisée et jeune, bien formée pour intervenir au sol, améliorerait considérablement l'efficacité des opérations.
Pour combattre ces feux de forêt, une réaction rapide facilite le travail. Mais pour cela, il faut un système de surveillance adéquat, précise Jang Mina.
Actuellement, le manque de ressources humaines et matérielles est un problème majeur. Mais il faut aussi penser à la prévention et à la surveillance. Notre système de surveillance des incendies n'est pas au point. L'an prochain, nous allons lancer un satellite agricole et forestier dédié qui nous fournira des images haute résolution pour surveiller les feux de forêt et évaluer les dégâts en temps réel.
Pour l'heure, les pompiers ne sont pas parvenus à maîtriser l'incendie qui continue de se propager. C'est Leo Fioretti, Séoul, RFI.
Voilà Clotilde, c'est la fin de cette édition.
Et c'était le journal de Karine Bellicha.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Allez, l'actualité haïtienne, comme chaque jeudi, on retrouve Franz Duval. Bonjour Franz.
Bonjour Clotilde.
Rédacteur en chef du Nouvelliste et à la une de votre journal. Eh bien, cette rencontre entre le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, pour évoquer la crise sécuritaire en Haïti.
Tout à fait. La rencontre a eu lieu à la Jamaïque et le président du Conseil présidentiel et le secrétaire d'État se sont rencontrés. À la fin de la rencontre, les deux ont fait des posts sur X. En réalité, on n'a pas appris grand-chose, sauf que les États-Unis ont renouvelé leur appui à Haïti, ont compris qu'il y avait une situation sécuritaire très grave. Et en quelque sorte, si on comprend bien, les États-Unis vont continuer à appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pour le moment, c'est ce qui ressort en gros de cette rencontre qui a eu lieu hier. Le président du Conseil revient à Port-au-Prince ce matin. Il doit donner un point de presse. On espère en savoir un petit peu plus.
En tout cas, ces discussions, France, elles se déroulent alors que le CPT a justement confirmé la mort d'un policier kényan qui faisait partie de cette mission internationale envoyée en Haïti pour lutter contre les gangs.
Tout à fait. Ça a été une grosse opération menée par la mission dans l'Artibonite, à Savien particulièrement, où il y a un gang criminel dangereux, très dangereux. Il y a eu un mort, il y a eu 3 véhicules blindés d'incendie. Et c'est encore une déroute pour la force multinationale et les forces de sécurité haïtiennes. Mais il se trouve que hier matin, avant de rencontrer le président du CPT, Marco Rubio avait parlé au président Ruto, le président du Kenya. Là encore, la situation qui se passe en Haïti, qui se dégrade en Haïti, la chute imminente de la capitale haïtienne, tout ça a été évoqué. On espère qu'il en sortira quelque chose.
Et ce contexte d'insécurité, il a aussi des conséquences un peu moins attendues en France, notamment sur le sommeil. Les habitants de Port-au-Prince ont de plus en plus de difficultés à s'endormir.
Tout à fait, parce qu'on surveille beaucoup de choses. On surveille les incursions des gangs. Ça peut arriver dans n'importe quel quartier, à n'importe quel moment. On surveille aussi l'activité des brigades de vigilance, ces organisations de la société civile, des riverains qui surveillent leur quartier, qui souvent sonnent l'alarme, réveillent tout le monde, leur disent qu'il est temps de se réveiller pour défendre leur quartier. Des fois, l'alarme est fondée, des fois, c'est pas fondé, mais tout ça empêche aux gens de dormir tranquillement. Et il y a toute la situation générale qui pèse aussi sur la santé mentale, sur la sérénité des gens. C'est difficile de dormir à Port-au-Prince. Et comme a dit quelqu'un de l'article, à Port-au-Prince, on dort les yeux ouverts parce qu'il faut toujours s'apprêter à courir, à prendre la fuite, à changer de quartier, à changer de domicile, à tout perdre. Et tout ça enlève le sommeil. C'est la situation à Port-au-Prince ces jours-ci.
Et c'est donc à lire sur le site internet du Nouvelliste. Merci beaucoup, Franz Dubal, d'avoir été avec nous.
RFI, les voix du monde.
C'est une décision qui devrait avoir de nombreuses conséquences. Donald Trump veut imposer 25% de droits de douane supplémentaires sur les véhicules fabriqués en dehors des États-Unis. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Cela pourrait avoir des conséquences d'abord sur les consommateurs.
Oui, le New York Times rappelle que près de la moitié des voitures vendues aux États-Unis sont importées, tout comme environ 60% des pièces détachées. Ce qui veut dire mathématiquement que les prix vont grimper de manière significative alors que l'inflation a déjà rendu les voitures et les camions plus cher pour le consommateur américain. Le Washington Post avance un chiffre, le prix moyen d'une voiture aux États-Unis est de $50,000 et ces nouveaux droits de douane pourraient ajouter $10,000 à l'addition, ce qui prouve, poursuit le journal, que le président américain, pourtant élu par nombre de ses partisans pour lutter contre l'inflation, est prêt à se mettre dans une position plus à risque vis-à-vis de son électorat que lors de son premier mandat. Le journal parle aussi d'un coup de tonnerre pour l'industrie automobile qui emploie plus de 3 millions d'Américains dans ses usines, ses magasins et ses entrepôts à travers le pays. Cela ajoute de l'incertitude dans un marché qui n'en avait pas besoin, estime de son côté le New York Times.
Et dans les médias également, la suite du signal Gate qui continue d'agiter l'administration Trump. Le président américain a dénoncé une chasse aux sorcières tout en niant la gravité de cette faille de sécurité qui a permis, je vous le rappelle, à un journaliste américain d'assister sur la messagerie signal à la planification d'une opération militaire contre les rebelles houthis au Yémen. Et ce journaliste, eh bien, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du rédacteur en chef du prestigieux magazine The Atlantic, devenu depuis quelques jours, Arim Lipold, la cible d'attaque de Donald Trump et de ses proches.
Une chose est sûre, Jeffrey Goldberg fait sans doute partie des dernières personnes que le gouvernement américain aurait voulu voir dans un groupe de discussion interne. Le rédacteur en chef de The Atlantic, un magazine classé à gauche, n'a jamais caché son opposition à Donald Trump. Et visiblement fier de son scoop, il révèle dans une interview à la BBC que le Signal Gate fait déjà grincer des dents au sein de l'administration.
De nombreuses personnes aux échelons inférieurs du gouvernement estiment qu'il y a deux poids, deux mesures. mesure. Imaginez que vous êtes un capitaine de l'armée de l'air, que vous travaillez actuellement pour la CIA ou le département d'État, et que vous êtes négligent dans le traitement des informations sensibles, comme ça a été le cas avec ces hauts responsables. Eh bien, vous seriez licencié et poursuivi en justice. Cette affaire fait beaucoup de bruit au sein de l'administration Trump, les gens s'interrogent. Quels sont les critères qui obligent leurs dirigeants à rendre des comptes ?
Ce n'est pas la première fois que Jeffrey Goldberg dévoile des propos embarrassants pour l'administration Trump. En 2020, il citait des sources selon lesquelles le président américain aurait qualifié les soldats morts au combat de « losers », de « perdants ». Une accusation que Donald Trump avait démentie, comme il nie aujourd'hui toute faille de sécurité autour de frappes au Yémen.
Les précisions d'Arim Lipold. Et puis l'actualité, Anne, c'est aussi la visite au Salvador de la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Christine Ohm, qui a fait une vidéo à la prison du Cecot, où sont incarcérés plus de 200 Vénézuéliens expulsés des États-Unis et soupçonnés d'appartenir à un gang.
Christine Ohm qui se met en scène et pose, casquette vissée sur la tête, devant des grilles où sont enfermés des prisonniers alignés, tête rasée, tatouage à part. Ils sont utilisés comme décor. Elle dit vouloir remercier le président du Salvador pour sa coopération et veut avertir les personnes qui souhaiteraient venir de manière illégale aux États-Unis pour commettre des crimes envers les Américains. Vous serez poursuivis et cet endroit fait partie des outils à notre disposition, prévient-elle. Cette prison haute sécurité dont elle a visité les installations a été construite par le gouvernement de Nayib Bukele pour détenir les membres de gangs peu de temps après l'instauration de l'état d'urgence dans le pays, rappelle le journal El Salvador. Les 238 Vénézuéliens expulsés des États-Unis sont soupçonnés d'être liés au gang Tren de Aragua, mais nombre d'entre eux disent n'avoir rien à voir avec cette organisation criminelle classée parmi les groupes terroristes par Washington. Le quotidien rappelle aussi l'accord conclu entre les États-Unis et le Salvador. Washington a versé un coût approximatif de 20 000 $ par prisonnier pendant un an, soit 6 millions de $ par an au gouvernement de Bukele, qui en échange est d'accord pour partager les informations recueillies sur ces détenus.
RFI, as vozes do mundo.
Au Brésil, c'est officiel, Jair Bolsonaro va devoir s'expliquer devant la justice. Hier, la Cour suprême a décidé que l'ancien président d'extrême droite devait être jugé pour tentative de coup d'État en 2022. Un plan préparé de longue date pour se maintenir au pouvoir et dans lequel Jair Bolsonaro aurait tenté d'embarquer l'armée, selon l'accusation. Pour Hervé Théry, géographe, professeur à l'université de Sao Paulo, toute cette séquence montre en tout cas qu'au Brésil, malgré la dictature militaire de 1964 à 1985, eh bien la démocratie reste solide.
Je pense qu'en tout cas, c'est un coup sérieux à sa défense, parce qu'il a, je pense, espéré longtemps s'en tirer. Mais ça paraît assez mal parti pour que lui soit présent à la prochaine élection. Et ça se vérifie d'autant plus que les gens qui voudraient prendre sa place sont déjà en train de se bagarrer pour le remplacer. D'après la Folha de São Paulo là, de ce matin, ils disent un procès dans l'année, ce qui ne serait jamais qu'un retour de ce qui a été fait pour Lula, qui lui-même a été jugé de façon assez rapide, justement pour savoir s'il pouvait se présenter ou pas à l'élection. Et effectivement, il ne l'a pas été. Et donc, on peut penser que ce sera la même chose pour dégager le terrain de ce côté-là. Il faut être très prudent parce qu'au Brésil, les choses sont imprévisibles. Il y a des cas assez extraordinaires. Par exemple, Getúlio Vargas, qui a été un dictateur et qui est devenu de gauche. Il y a des gens donc condamnés pour mort qui sont revenus. Enfin, on sait que 20, 25, 30% de la population le soutient. Donc, il a quand même un capital politique que ses successeurs sont déjà en train de se disputer.
Des propos recueillis par Marine de la Moissonnière. Et pendant que les avocats de l'ancien président brésilien affinent leur défense, Anne, eh bien, les bolsonaristes œuvrent aussi au Parlement en sa faveur.
Oui, O Globo nous apprend que les soutiens de Bolsonaro tentent le tout pour le tout afin de faire obstacle à ce futur procès. Outre le projet de loi qui prévoit l'amnistie pour les personnes reconnues coupables d'avoir participé à l'insurrection à Brasilia en janvier 2023, l'opposition a débuté un processus d'obstruction systématique au Parlement. Ainsi, l'ordre du jour a été annulé ce mercredi. Ils pensaient pouvoir nous museler, mais nous ne faisons que commencer cette bataille, a déclaré un député évangélique.
RFI, la radio del mundo.
C'était il y a 3 semaines en Argentine. La ville portuaire de Bahía Blanca, située à près de 600 km au sud de Buenos Aires, subissait de plein fouet d'importantes inondations. En quelques heures, près d'une année de pluie est tombée. Des inondations dévastatrices qui ont touché plus de 300 000 personnes et fait au moins 16 morts. 3 semaines plus tard, le World Weather Attribution, un réseau de scientifiques internationaux, publie aujourd'hui une étude sur cet événement extrême. Et l'organisation établit, Juliette Pietraszewski, un lien probable avec le réchauffement climatique.
L'étude de World Weather Attribution s'intéresse d'abord à la vague de chaleur extrême apparue avant les pluies dévastatrices dans la région. Et le constat est clair, les hautes températures qui ont frappé le nord de l'Argentine entre décembre et début mars auraient été presque impossibles sans réchauffement climatique. Concernant les plus extrêmes, les chercheurs sont plus prudents, mais soulignent qu'une atmosphère plus chaude retient plus facilement l'humidité et entraîne donc des précipitations plus intenses. En résumé, les deux événements ont des caractéristiques communes liées au changement climatique d'origine humaine, des chaleurs extrêmes plus fréquentes et un air plus humide, un cocktail complexe qui a bien alimenté les tempêtes. Et derrière ce bilan, les scientifiques de WWA alertent surtout sur les énergies fossiles qui augmentent l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes et qui se déclenchent en même temps. À l'heure où le président argentin Javier Milei envisage de faire sortir son pays de l'accord de Paris, un accord dont l'objectif est de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius, une augmentation alimentée par les énergies fossiles, grandes émettrices de CO2.
Alors, face à ce nouveau constat, que pensent les Argentins de la politique de leur président climato-sceptique ? Eh bien, Théo Conscience leur a posé la question.
L'inquiétude, voilà ce qui domine chez Alejandro, 26 ans, quand il évoque la politique environnementale de Javier Milei, pour qui le dérèglement climatique est un phénomène cyclique et naturel qui n'a rien à voir avec l'activité humaine.
Il nie le changement climatique et il croit que le marché peut régler tous les problèmes spontanément. Ça n'a jamais fonctionné nulle part, donc je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait ici.
Avant de se retirer de la COP29 sur ordre de Javier Milei en novembre dernier, la délégation argentine avait annoncé que le pays s'opposerait à toute mesure ou régulation qui irait à l'encontre de son développement économique. Carlos, vénézuélien naturalisé argentin il y a 3 ans, ne nie pas le dérèglement climatique, mais partage les priorités de Javier Milei.
Ce qu'il cherche, c'est s'attaquer aux problèmes les plus urgents du pays. Et le principal, c'est l'économie. Ces politiques ont pour but d'obtenir des bénéfices rapides pour le pays. Elles ne contemplent pas vraiment les conséquences possibles à long terme.
Selon l'enquête, ce qui inquiète le monde menée chaque mois par l'Institut de sondage Ipsos, en mars 2025, seuls 3% des Argentins mentionnent le dérèglement climatique comme une source de préoccupation, contre 14% de la population en moyenne au niveau mondial. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et puis des inondations aussi en Bolivie, Anne, hein, où l'état d'urgence a été déclaré avec ces inondations qui ont touché près de 200 municipalités.
Oui, l'ensemble des 9 départements du pays ont été frappés par ces intempéries que les experts attribuent au changement climatique. Des villages entiers engloutis, la RASON cite un rapport qui parle de près de 380 000 familles touchées. Le bilan humain est lui monté à 51 morts. Des précipitations intenses que le pays n'avait pas vues depuis 40 ans, alors que la Bolivie se trouve dans un moment compliqué pour suit le journal. Dans le Correo del Sur, la photo à la une montre des champs engloutis par les eaux et des hommes en train de construire des digues, bottes aux pieds. Le président Luis Arce a récemment débloqué la somme de 75 millions de dollars pour faire face à ce type de catastrophe naturelle. Les autorités boliviennes assurent qu'elles n'abandonneront pas les familles qui se trouvent confrontées à cette situation dramatique.
Anne Verdaguet pour la revue de presse.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité des Outre-mer avec vous, Emma Jaconelli. Et cette question, hein, comment revaloriser les sargasses, ces algues polluantes aux Antilles ?
La question que pose le colloque qui a débuté hier en Guadeloupe, regroupant experts et autorités caribéennes, comment coopérer pour lutter contre ce fléau et comment en faire une force ? L'objectif est d'utiliser ces algues, mais les échouements saisonniers rendent difficile leur valorisation. Ulysse Jauregui, coordinateur du doctorat en sciences de l'environnement à Saint-Domingue, travaille sur un projet de la sorte. Il est au micro de Peggy Robert.
On n'a pas les sargasses toute l'année. On n'a pas la même quantité de sargasses chaque année. Donc ça pose un problème. Et pour ça, on a eu les supports aussi du gouvernement français à partir de juin de l'année dernière. Et on a lancé un projet d'un an qui s'appelle Res Agro Sargasse. Donc c'est la valorisation des résidus agricoles de la sargasse. Pourquoi ? L'idée, c'est qu'on soit capable de développer des procédés qui vont nous permettre, en même temps, ou en séquence, traiter soit les sargasses, soit autres déchets agricoles. À la fin des sargasses, c'est une biomasse comme une autre, avec ses spécificités. Mais nous, dans la Caraïbe, on a beaucoup de déchets agricoles. On a de la banane, on a de l'ananas, on a des cocos, on a des cacao, des cafés. Donc, pourquoi pas valoriser aussi les déchets des produits de la production agricole.
La production agricole, justement, avec la récolte de canne à sucre qui a débuté sur l'île guadeloupéenne de Marie-Galante. Malgré les difficultés de recrutement de main-d'œuvre pour la coupe manuelle traditionnelle, la filière attend entre 50 et 55 000 tonnes de canne à broyer d'ici fin mai. Et la ministre du Tourisme, Nathalie Delattre, est en Martinique. Elle a rencontré les professionnels du secteur. Sur le marché artisanal de Fort-de-France, pourtant en pleine saison touristique, les marchands ont bien du mal à vendre leurs produits. Reportage.
Pas beaucoup de touristes sur le marché artisanal de Fort-de-France, au niveau du Malecone. Sur le stand de Sincha, deux couples de Français qui entament leur dernière semaine de vacances et qui en profitent pour faire quelques emplettes.
On se promène, on regarde, on troque. On troque.
Quand on trouve quelque chose qui nous intéresse, et ben on prend.
Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé là? Je vous vois essayer des chemises.
Alors... Non, là c'est pour monsieur, mais j'ai vu des petits bijoux à l'entrée.
Ça vous va la couleur?
Ah oui, ça va, je trouve qu'elle est jolie la couleur. Non,
alors la chemise vous plaît?
Oui, elle me plaît bien.
C'est une chemise à mettre en été?
En été, et faire voir à tout le monde que j'ai du bronzage.
Et qu'il est allé en Martinique surtout.
Pour Sincha, c'est la première vente de la journée, il est déjà près de 16h.
Eh bien aujourd'hui, c'était pas flambant, mais les autres jours, c'est mieux. Alors, quand il y a, on travaille, mais quand il n'y a pas, on fait avec.
Dominique, quant à elle, vend des bijoux artisanaux. Et pour elle aussi, la saison a été en dents de scie.
Les montagnes russes, de temps en temps creux, de temps en temps relève la tête, de temps en temps creux. Mais ça va, on s'accroche.
Sous le marché artisanal de Fort-de-France, la patience est la première des vertus.
Un reportage signé Alain Livory de Martinique La Première. Bonne journée.
Et bonne journée à vous Emma Jaconelli. Il est presque 13h30 en temps universel. On arrive à la fin de ce RFI Midi, mais on se quitte quand même avec un petit peu de musique, un peu de soleil, avec Joao Selva, Mare vai subir sur RFI.
Pra falar, poucas notas pra falar, meu bem. São palavras pra falar. Com você é importante. Tanta história pra contar. Lado a lado caminhar faz bem. Sem você não sei trilhar. Estrada aberta do presente.
Agora chego.
Guiados pelo sol.
Nunca se separa.
Eu e você.
Agora vem brilhar.
Juntos na luz do sol.
Nunca se separa.
Tão simplesmente. Para sempre vou morar, meu bem. Nessa energia solar. Brilho que ilumina a gente.
Agora chego.
Guiados pelo sol.
Nunca se separa.
Eu e você.
Simplesmente.
peu de douceur et de soleil si jamais vous débutez votre journée sur RFI avec Joao Selva, qui sera d'ailleurs en concert demain à Figeac, dans le sud-ouest de la France. Benoît Gouthorbe et Lorraine Nemoza étaient à la réalisation aujourd'hui, merci à eux deux. Et à Emmanuel Klotz, qui était à la rédaction en chef. Dans un instant, sur RFI, c'est De Vive Voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée.
Du 21 au 30 mars, le festival Ciné Latino Rencontre de Toulouse ouvre les portes cinématographiques de l'Amérique latine en 140 films et un large panorama de la production récente. Au programme, compétitions, découvertes, focus, documentaires, sélection spéciale pour le jeune public et une thématique mise à l'honneur, les voix et regards des cinéastes autochtones. Le festival Ciné Latino du 21 au 30 mars. Plus d'informations sur cinelatino.fr en partenariat avec RFI.